Vous écoutez le podcast Sephora University Europe. L'épisode d'aujourd'hui, dont le sujet est « Comment animer des sessions de formation virtuelle ?» Je suis Lucie, de l'équipe formation Europe et Moyen-Orient, la responsable du projet sur la façon d'animer une session virtuelle. Et j'aurai aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Diana sur ce sujet. Bonjour Diana. Diana, tu travailles dans les métiers de la formation depuis plusieurs années. En quoi cette année est-elle différente des autres ?
Je pense, Lucie, que cette année est très différente, car nous parlons de la digitalisation de la formation depuis des années, mais dans le contexte actuel, cette année, nous n'avons pas eu le choix. Nous avons dû plonger dans l'ère de la formation digitale de façon précipitée. D'ailleurs, Lucie, j'ai une petite devinette pour toi. Vrai ou faux ? 75% des managers affirment faire autre chose pendant les formations et les réunions virtuelles.
Vraiment, Diana ? Je pense que nous sommes tous coupables de vouloir faire 1000 choses en même temps. Il semble qu'il soit plus facile de tricher lorsque l'on participe à des sessions virtuelles plutôt qu'à des sessions en classe. Qu'en est-il pour toi, Diana ?
Moi aussi. Je dois avouer que je fais partie de ces 75%, Lucie. J'ai une autre question. D'après toi, quelles sont les différences entre une session virtuelle et une session en classe ?
Tu veux dire du point de vue du facilitateur ?
Oui, du point de vue du facilitateur, en effet.
Je pense que la différence est minime entre une formation présentielle et une formation virtuelle. Tout comme en formation présentielle, il faut une très bonne structure, ce qui signifie que l'on a besoin de souhaiter la bienvenue à nos participants, d'un icebreaker, et il ne faut pas oublier non plus de partager les objectifs de la formation. Il vous faudra aussi communiquer les règles de base afin d'éviter les situations dont nous parlions juste avant. Donc, dans l'ensemble, vous avez besoin d'un plan. Ce plan est votre feuille de route, tout comme dans une session de formation présentielle.
Tout à fait logique. Merci, Lucie. Mais comment veiller à l'attention et l'implication de chaque participant dans une session virtuelle, étant donné qu'on ne les a pas tous en face de nous ?
S'assurer que les participants reçoivent vos messages clés est l'une des choses les plus délicates à gérer en tant que facilitateur. Et je pense que nous y arrivons plutôt bien, Diana, lors des sessions en classe. Nous pouvons nous aider des 4 styles de communication.
Ah oui, tu parles des 4 styles de communication que sont l'analytique, le directif, l'amiable et l'expressif.
Oui, exactement.
C'est vrai qu'ils ont chacun des besoins et des comportements différents et aussi des attentes différentes. Alors, comment on peut s'assurer d'adapter une formation à tous leurs besoins des 4 styles de communication.
Pour celles et ceux d'entre vous qui ont assisté à notre session de formation virtuelle, vous en savez maintenant plus sur les 4 styles de communication. Mais voici, en bref, quelques conseils pour le style analytique. Les personnes de style analytique aiment la clarté. Donc, envoyer un ordre du jour avant le webinaire s'avère être très utile. On peut également encourager les questions tout au long de la réunion. Fournir des documents est indispensable. Et enfin, ils apprécieront qu'un suivi soit fait grâce à un sondage après la réunion, par exemple. Est-ce que tu saurais nous dire, Diana, quel pourcentage représentent les personnes de style analytique ?
Oui, bien sûr. Ils représentent 29,6% de la population.
C'est-à-dire de la population totale, et pas seulement chez Sephora, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, de la population totale. Mais je pense que chez Sephora, il y a un grand nombre de personnes de style analytique. Et Lucie, pourrais-tu nous en dire plus sur les personnes de style directif ?
Les directifs sont très attentifs au temps. Et ils sont très attentifs au temps qu'ils passent avec vous en formation et de ce qu'ils vont obtenir en vous accordant ce temps. Ils adorent quand, par exemple, vous terminez votre réunion par une clôture puissante, un bref résumé, et 3 points de discussion clés. Ils ne veulent pas que vous attendiez les retardataires plus de 5 minutes. Et naturellement, ils n'aiment pas le papotage, là encore en raison de l'usage qu'ils font de leur temps. Décrits comme ça, les directifs ont l'air horribles.
Oui, tout à fait.
Mais ce n'est pas le cas, Diana. C'est juste qu'ils sont très orientés productivité et vous gagnerez en crédibilité si vous veillez à ce que la session soit productive.
Ok. J'ai bien compris. Merci, Lucie. Ça ne serait pas ton style de communication, d'ailleurs ?
Ah, Diana, tu m'as bien démasquée. Et dirais-tu que les directives sont nombreuses chez Sephora?
Ah oui, je pense qu'en raison de notre culture de la performance, les directives se sentent très à l'aise chez Sephora, avec tous les défis à relever, les objectifs à atteindre. Ils peuvent trouver ce qu'ils cherchent chez nous. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des amiables?
Les personnes de style amiable sont des gens qui aiment la coopération. Ils adorent que l'on mette l'accent sur le « nous », sur les efforts de l'équipe, sur les récompenses pour l'équipe. Ils évitent les conflits et les disputes. Ils aiment les conversations informelles en début de session. Ils apprécient que vous vérifiez s'ils vont bien, comment ils se sentent aujourd'hui. Ils aiment l'approche personnalisée, ce que, là aussi, nous faisons très bien en session présentielle.
Je n'en suis pas sûre, mais quand, à l'issue d'une formation, on reçoit des commentaires positifs par mail, WhatsApp ou sur Instagram, cela correspond au style de communication amiable, non?
Oui, tout à fait. Les amiables aiment rester en contact avec nous après la session. Les relations humaines sont au cœur de tout pour eux.
Super clair. Et pour terminer, 28,1% de la population sont de style expressif. Alors, qu'en est-il les concernant?
Ah, les expressifs. Nous les aimons beaucoup, Diana, en tant que facilitateurs, car ce sont des personnes très impliquées. Ils apprécient le « wow effect ».
D'accord. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à leur montrer des vidéos, à encourager des volontaires à faire part de leurs réflexions et à utiliser la fonction de chat et à jouer à des jeux.
Ah, c'est exactement ça. Ils n'aiment pas les cours magistraux. Donc, leur parler plus de 5 minutes, c'est probablement pas une bonne idée. Avec les expressifs, il faut s'assurer d'établir un contact visuel direct. Et pour cela, bien regarder la caméra en face. C'est très important pour eux. Dernièrement, Diana, je crois que tu as fait un sondage auprès de nos formateurs Sephora. Selon toi, dans quelle catégorie se situe la majorité des formateurs?
Oui, c'était très intéressant, Lucie. Je pense que nous avons beaucoup d'expressifs dans notre communauté de formation et je pense que nous pouvons en être fiers aussi parce que ce sont des personnes qui sont tournées vers les autres, qui aiment encourager l'implication, créer le « wow effect » comme tu as décrit plus tôt, mais aussi créer cet esprit de communauté. Et il est certain que ce sont eux qui racontent le mieux les histoires. Donc, nous avons vraiment besoin d'eux chez Sephora.
Super, c'est parfait. Exactement, oui. Et cela met aussi une certaine pression sur les plus timides que l'on n'entend généralement pas dans un grand groupe.
D'accord, donc le chat marche en général très bien aussi. Il permet de garder l'attention du groupe pendant la session et de la rendre encore plus participative.
Oui, exactement. Et je pense que les nouvelles générations apprécient beaucoup cette fonctionnalité. Et pour terminer, je dirais qu'il peut être sympa d'envoyer des emojis par-ci, par-là, pour créer une bonne ambiance. Et toi, Diana, quelle fonctionnalité préfères-tu?
J'aime beaucoup les trois que tu as choisis, Lucie. Et j'apprécie aussi les sondages dans mes sessions, car ils permettent de créer immédiatement une dynamique et d'impliquer tous les participants s'ils sont en train de faire autre chose.
Comme 75% des managers, tu veux dire? D'accord, Diana. Et combien de fonctionnalités me conseillerais-tu d'utiliser pendant une session virtuelle?
Très bonne question, Lucie. Mon conseil serait d'utiliser au maximum 2 à 3 fonctionnalités. Parce que si vous utilisez trop de fonctionnalités, vous pouvez perdre l'attention de vos participants. Vous pouvez aussi en effrayer certains parce que beaucoup de choses apparaissent sur l'écran. Donc, partons sur 2, 3 par session. Maintenant que nous avons toutes les informations concernant le déroulement d'une session présentielle, passons à la préparation. Lucie, est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils à ce sujet tellement important?
Oui, bien sûr. Mon premier conseil concerne le confort du facilitateur. Assurez-vous d'avoir devant vous un grand verre d'eau, que vous êtes assis sur une chaise confortable, mais pas trop, car votre ton de voix est déterminé par la façon dont vous êtes assis. Si vous êtes assis bien droit, votre voix sera plus puissante. Ensuite, il y a tous les détails techniques, c'est-à-dire choisir un fond neutre, investir dans un casque main libre, vérifier la lumière et s'assurer que vous n'êtes pas dans l'ombre et que les gens peuvent vous voir et faire attention au bruit autour de vous. Mon troisième et dernier conseil concerne le travail d'équipe. Assurez-vous d'avoir un producteur et un co-facilitateur lorsque vous avez affaire à plus de 15 ou 20 participants.
Très intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le rôle de producteur et le rôle de co-facilitateur?
Bien sûr. Le producteur ou la productrice est la personne qui maintient la structure, qui garde le rythme, qui nourrit les sondages. Il ou elle alimente le chat, lance les vidéos, ce qui vous permet en tant que facilitateur de vous concentrer uniquement sur vos participants. Et le co-facilitateur entre en scène, comme nous le faisons en ce moment pour dynamiser la session.
Super clair. Merci Lucie pour tous les conseils que tu nous as donnés sur les quatre styles de communication. Je pense que nous sommes maintenant prêts à adapter nos formations à ces quatre styles. Je voulais également te demander, parmi toutes nos fonctionnalités de webinar, que ce soit sur Zoom ou sur Teams, laquelle préfères-tu et pourquoi?
J'ai découvert récemment, Diana, avec toi et toute l'équipe, certaines de ces fonctionnalités. Et je dirais qu'aujourd'hui, les breakout rooms fonctionnent très bien parce que cela nous donne la possibilité de discuter de manière plus personnelle, plus informelle et de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer.
Oui, comme dans une formation présentielle, il est toujours très utile et efficace de diviser le groupe entier en petits groupes.
Ainsi, vous n'aurez pas à n'écouter qu'une seule voix ou ne regarder qu'un seul visage. C'est une sorte de ping-pong entre deux personnes. Il y a beaucoup à faire pendant une session virtuelle. Et l'objectif est de la rendre aussi fluide que possible pour votre public, afin qu'il ne voit pas tous les détails techniques en arrière-plan.
C'est clair. Donc, si je comprends bien, il faut se concentrer sur le guide d'animation pour s'assurer qu'on n'oublie rien et que chacun d'entre nous a son rôle, sa mission et son timing afin de rendre la session la plus fluide possible.
C'est exactement ça. Pas de session virtuelle sans guide d'animation. C'est votre Bible.
Ok, impeccable, tout est clair.
Ce qui m'amène à te poser une autre question, Diana. Pour toi, qui as animé un bon nombre de sessions virtuelles, quelle serait la durée idéale d'une session virtuelle?
Je dirais 60 minutes, donc une heure. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 1h30, mais une heure est la durée parfaite. Si on dépasse 1h30, on devrait aménager une pause. Il est obligatoire de faire bénéficier nos participants d'une pause virtuelle, justement pour être sûr de pouvoir maintenir leur attention durant toute la session.
Je suis tout à fait d'accord, oui.
Et toi, Lucie, pourrais-tu nous dire comment tu prépares tes sessions virtuelles?
C'est une bonne question, Diana. Déjà, premièrement, je leur envoie une invitation avec les objectifs, la durée de la formation et un travail préparatoire. Mon petit conseil concernant le timing est de demander aux participants de se joindre à la session 5 minutes en avance et de leur préparer des salles d'attente pour démarrer la session à l'heure et dans une bonne ambiance.
Ça, c'est un excellent conseil. Et très bon à savoir. Merci Lucie. Ma prochaine question, nous savons qu'une formation ne se termine pas à la fin de la session. Alors, que se passe-t-il ensuite pour une session virtuelle?
La partie après la session est aussi importante que la préparation ou la partie pendant la formation. Donc ici, chez Sephora, nous avons notre méthode d'évaluation. Nous utilisons Formetris, mais il existe d'autres méthodes. Le plus important est de faire un suivi avec vos participants et de prendre le temps d'examiner les commentaires des participants et de repérer certaines tendances importantes dans les réponses que vous recevrez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez organiser vos données et bien sûr, vous devez agir sur ces feedbacks en adaptant votre prochaine session.
C'est vrai que le fait que les participants reçoivent un questionnaire de suivi donne également une idée du sérieux de la session, Lucie. Il ne s'agit pas seulement d'assister à la session et puis c'est tout, ensuite on oublie.
C'est exactement ça. Cela aide les gens à se souvenir de vos messages clés et à utiliser en magasin ce qu'ils auront appris. Je sais par exemple que toi, Diana, tu demandes parfois à tes participants de faire quelques exercices après la session dans le cadre du suivi. Peux-tu nous dire pourquoi il est important de le faire?
Eh bien, lorsque on donne les homeworks, mon objectif est que les participants s'assurent qu'ils sont capables d'appliquer la théorie et toutes les nouvelles compétences qu'ils ont développées pendant notre formation. C'est super important qu'il y ait ce lien pragmatique entre la formation, et la réalité.
J'adore. Une approche purement pragmatique.
Exactement.
Et pour en revenir à l'outil que nous utilisons chez Sephora, qui s'appelle FlashGrid et que vous connaissez tous, la partie la plus importante, Act Now, a-t-elle sa place dans une session virtuelle ?
Tout à fait. Nous leur demandons de mettre en place un plan d'action pour s'assurer qu'ils sont capables de tester, d'essayer et d'apprendre immédiatement dès le lendemain de la session. S'ils attendent, ils ne pourront jamais améliorer des compétences particulières. Ok Lucie, merci beaucoup, car je pense que nous avons maintenant une idée claire et structurée de la façon de mener une session virtuelle. Ma dernière question pour toi. Quelles sont, d'après toi, les différences entre les sessions virtuelles et les sessions en classe?
J'espère, Diana, que les auditeurs de ce podcast seront d'accord avec nous pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Vous devez vous concentrer sur votre préparation. Nous aimons dire que la préparation prime à l'action. Vous devez aussi avoir un bon plan pour votre session et vous devez assurer un suivi rigoureux. Je dirais aussi, et c'est peut-être un conseil de ma part à nos auditeurs et à nos formateurs, qu'on apprend en s'entraînant. N'abandonnez pas. Si quelque chose ne fonctionne pas bien techniquement parlant, ne pensez pas que vous devez être parfait pour faire des sessions virtuelles. Il existe de bons indicateurs pour voir si votre public est avec vous ou non. Si vous suivez la structure dont nous avons parlé aujourd'hui, vous serez automatiquement sur la bonne voie et en gardant 80% à l'esprit, vous vous en sortirez brillamment lors des sessions virtuelles.
Ça marche, Lucie. Je pense que c'est une nouvelle ère pour notre métier. Donc, si vous découvrez de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils, n'hésitez pas à tester et à partager avec toute notre communauté de formation via WhatsApp, Instagram, toutes vos bonnes pratiques et vos nouvelles idées pour rendre nos sessions virtuelles de plus en plus dynamiques et à la pointe des tendances.
Absolument. Nous vous encourageons à rester en contact avec nous, simplement pour continuer à nous améliorer dans nos sessions virtuelles. Merci Diana, ça a été très agréable de discuter avec toi d'un sujet qui nous passionne toutes les deux.
Merci Lucie, tout le plaisir était pour moi. Merci d'avoir écouté Sephora University Podcast et rendez-vous au prochain épisode.